La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et au menu de notre club de rentrée cet après-midi, des ovnis, l'histoire des crétins des Alpes et une exposition au Havre entre rêve et écume. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un plongeon dans la belle rivière corse du Cavou.
Oui Mathieu, mais malheureusement ce n'est pas pour le plaisir de la baignade, mais parce qu'une maladie respiratoire, une maladie parasitaire tropicale, la bilharziose, inquiète les scientifiques sur place.
Voilà, on en parle tout à l'heure donc dans la une, et Fanny Boyon réalise ce club aujourd'hui qui a été préparé par Chantal de Montagny avec Irène Menahem et Hannibal Wachi.
La tête au carré, le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, avec nos invités cet après-midi que je salue, l'historien Antoine Debecq, Xavier Passot, ancien ingénieur du CNES, et puis Denis-Michel Boël, conservateur général du patrimoine. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et Sophie Bicherel.
Bonjour Mathieu.
Qui nous rejoint désormais tous les vendredis de la rédaction de France Inter. Tous les vendredis, Sophie, pour un rendez-vous science dans lequel vous allez nous faire partager vos coups de cœur, c'est ça en gros ?
Voilà, art et science ou la culture scientifique en général. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en France qui se font.
Ouais, donc on va parler d'expositions avec vous.
De livres, de films, de pièces de théâtre.
Bande dessinée, pourquoi pas. Votre première invitée tout à l'heure, Sophie.
Oui, nous parlera d'une très 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 belle exposition qui ne commence pas, oui. Malheureusement, le 9 septembre, mais qui se termine. Oui. Et voilà, pour laquelle je conseille vraiment à tous nos auditeurs de se rendre. C'est tout à fait magique entre l'océanographie et puis les expressions artistiques.
Denis-Michel Boël, voilà cette exposition, on va en parler avec vous. Vous êtes le conservateur général du patrimoine et co-commissaire donc de cette expo qui se termine le 9 septembre, c'est pour ça qu'on en parle, pour aller la voir par exemple ce week-end.
Voilà, tout à fait, encore une semaine.
Xavier Passot, vous publiez « J'ai vu un ovni, perception et réalité », c'est aux éditions du Cherche Midi. Est-ce qu'aujourd'hui encore on prend au sérieux les personnes qui sont témoins d'ovnis ou de phénomènes spatiaux non identifiés ?
On prend tout à fait les témoignages au sérieux. Ils nous apporteront beaucoup d'informations, on verra tout à l'heure.
Ouais. On enquête systématiquement ?
On enquête systématiquement.
Bon, avec le GEPAN en particulier.
Avec le GEPAN qui marche toujours.
Antoine Debecq, vous publiez un autre ouvrage sur l'histoire des crétins des Alpes chez Vuibert. On connaît bien l'expression, mais au fond, beaucoup moins cette maladie.
Oui, absolument. On connaît l'expression par le célèbre juron du capitaine Haddock, souvent adressé au professeur Tournesol. Crétin des Alpes. On trouve aussi crétin des Balkans, crétin des Andes. Mais c'est vrai que cette... expression drôle, ce juron recouvre une maladie, une pathologie très sérieuse qui a été prise en tout cas très au sérieux par les autorités médicales au 19e siècle.
Ouais. Et c'est toute une saga, une enquête que vous avez menée qui est absolument passionnante. On va en discuter dans la première partie de ce club avec vous dans un instant. Et puis les auditeurs bien sûr nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque sur les réseaux. Axel Villard à la une de la science aujourd'hui, donc la bilharziose corse, c'est comme ça qu'on le prononce ?
Bilharziose, oui. C'est une maladie tropicale bien connue, Mathieu, puisqu'en nombre de cas, c'est la deuxième après la malaria. Elle infecte 230 millions de personnes par an. Écoutez, pour commencer, cette archive de l'hygiène, du service d'hygiène du Maroc en 1972.
La santé publique organise des campagnes anti-bilharziennes périodiques ouvertes à tous. Se protéger soi-même demeurera toujours une obligation. Jamais d'urine dans l'eau. Pas de bain dans les eaux interdites.
Alors, pas d'urine dans l'eau, Axel, c'est ça ?
Non, pas de pipi dans l'eau. Non, c'est un message qui reste d'actualité, car c'est de cette manière que le petit ver responsable de la maladie retourne dans la rivière et continue son cycle de vie. On va vous expliquer avec notre invité en direct des locaux de France Bleu Roussillon. Bonjour Jérôme Boissier.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes parasitologue et professeur à l'université de Perpignan et avec vos équipes, vous traquez depuis 2014 cette bilharziose en Corse. Alors, pour commencer, faisons un peu connaissance avec ce petit ver à large ventouse, Schistosoma, qui cause la maladie. Comment est-ce qu'il va de nos urines jusqu'à la rivière et de la rivière jusqu'à nos urines alors ?
Alors, voilà, la bilharziose, l'agent pathogène, c'est un petit ver. Qui a un cycle de vie dit complexe puisqu'il utilise un autre mollusque dans les rivières en fait. Donc si on prend le cycle au niveau de l'hôte humain, les vers qui sont des couples, il y a des mâles et des femelles, sont accouplés au niveau des veines qui sont autour de la vessie. Ces couples vont pondre, une femelle pond 300 œufs par jour. Et elles vont se retrouver, ces œufs, dans la lumière de la vessie pour être ensuite excrétées via les urines. L'urine arrivant dans l'eau douce, une larve va sortir des œufs et infecter un petit escargot d'eau douce qui est très spécifique et qui, vous vous doutez, donc, est présent en Corse.
Alors, c'est
ensuite, à l'intérieur de ce mollusque, le parasite va se multiplier, il va carrément le dévorer de l'intérieur. Et au cours de la vie d'un mollusque infecté, ce sont plus de 100 000 larves qui vont sortir du mollusque par multiplication clonale, en fait.
Wow.
Elles vont nager activement en direction son autre hôte, qui est donc l'homme.
Alors,
et là, elles vont pénétrer à travers la peau. C'est totalement indolore, on sent strictement rien. Elles vont avoir un parcours assez sinueux dans l'organisme, vont passer par le cœur, par les poumons, pour ensuite se retrouver au niveau des veines qui entoure la paroi vésicale, en fait, de la vessie. Et la boucle est bouclée.
Et une nouvelle reproduction et de nouveaux œufs. Qu'est-ce qu'on risque quand on a ces vers en nous, alors ?
Alors, ça va dépendre, en fait, de l'intensité de l'infestation. Donc, il faut savoir que c'est une maladie mortelle. Il y a 200 à 230 000 morts par an dues à cette maladie. Mais il faut bien comprendre, donc, c'est une maladie qui est principalement en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est la répétition de l'infection qui cause la mort. Les gens en Afrique sont contaminés régulièrement, tous les jours, et c'est ça qui va causer la mort des patients. Dans la situation qui est en Corse, c'est totalement différent, puisque ce sont des baignades totalement occasionnelles, et l'intensité parasitaire est faible, mais ça peut causer des cas de stérilité, ça peut causer des cas de cancer. C'est un pathogène qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Ouais, combien de personnes sont concernées alors, pour la Corse uniquement, hein ?
Pour la Corse uniquement, 120 personnes. On recense environ 120 personnes depuis les premiers cas donc, qui ont été recensés en 2014, dû à une baignade en 2013. Donc il y en a eu beaucoup, il y a eu 106 cas en été 2013. Et depuis, ça s'estompe un petit peu, mais on a l'impression que le parasite ne veut pas partir. Et il est toujours présent. On a eu des cas en 2015-2016.
Mais oui, mais justement, qu'est-ce qui permet son maintien en Corse alors qu'il ne restait pas avant ? C'est le réchauffement climatique, encore une fois ?
Alors voilà, il faut. On n'a pas de données avant l'épidémie, puisqu'en fait, on ne pouvait pas suspecter que la bilharziose puisse émerger en Europe. Et puis bon, maintenant, c'est arrivé. Donc on n'a pas de données préliminaires, mais ce qui est certain, c'est que les rivières corses, et comme toutes les rivières du sud de l'Europe, ont augmenté de 1 degré les 30 dernières années, ce qui est particulièrement propice au développement des petits escargots d'eau douce. Et surtout, ce qui est incriminé, au-delà du réchauffement climatique, ce sont ce qu'on appelle les changements globaux, et en particulier les mouvements de personnes. On multiplie les transports, on multiplie les migrations humaines, et les personnes se déplacent avec leurs maladies, et donc, bien évidemment, elles les propagent à travers toute la planète.
Alors, là où les choses deviennent un peu compliquées, c'est que la semaine dernière, un de vos étudiants a présenté les résultats des analyses ADN de ces vers. Et là, il y a de quoi s'inquiéter presque deux fois plus, parce que c'est un hybride.
Tout à fait. Alors là, je dois remercier mon équipe, Eve Toulza et Julien Kincaid-Smith, donc ce fameux étudiant qui a beaucoup travaillé sur le sujet pendant 3 ans. Et en effet, il a révélé que ce parasite est un hybride, donc c'est-à-dire un mélange de deux espèces. Donc c'est à la fois l'espèce classique humaine, alors son nom barbare, c'est Schistosoma hematobium, mais il y a également une part non négligeable de son génome, 25% de son génome, qui appartient à une autre espèce, qui est Schistosoma bovis. Et comme son nom l'indique, en fait, bovis, c'est un parasite de ruminant. Donc il infeste, c'est un parasite qui va infester des moutons, alors préférentiellement des bovins, des vaches, mais également des moutons ou des chèvres. Donc c'est un phénomène qui nous a surpris et donc qui est scientifiquement intéressant et peut-être un petit peu alarmant, puisque ça veut dire que ce parasite n'est pas seulement un parasite de l'homme, c'est un parasite qui a un mélange de parasites de l'homme et de parasites de l'animal.
Jérôme Bassière,
la grosse question, c'est est-ce que ce parasite est zoonotique ? Alors qu'est-ce que c'est qu'un parasite zoonotique ? C'est un parasite qui est capable d'infecter à la fois l'homme et l'animal. Et là, on comprend bien qu'en termes de contrôle de la maladie, ça devient beaucoup plus compliqué.
Mais justement, d'où cette dernière question. Est-ce qu'il existe un scénario où le ver ne se maintient pas dans les eaux corses ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Plutôt positif, puisqu'il faut dire que ce problème-là, il est quand même pris très très au sérieux par toutes les institutions de santé, que ce soit l'ANSES en particulier ou Santé publique France. Tout est mis en œuvre pour totalement endiguer cette maladie, mais il faut bien comprendre que ce phénomène est totalement inédit. Il y a déjà eu une émergence en 1920 au Portugal, il y a très longtemps. On n'avait pas les moyens qu'on a à l'heure actuelle, mais on est face à un événement qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Et donc, on est quand même très modeste par rapport aux capacités de ce parasite. Et donc, bon, l'avenir, évidemment, c'est l'éradication totale de cette maladie, en mettant, bien sûr, tous les moyens qu'il faut pour la faire disparaître des rivières corses.
Donc, pour l'instant, il est circonscrit à la Corse. Il n'y a pas eu d'autres cas ailleurs en France ?
Pas du tout. Il n'y a aucun cas. Et en fait, on a un suivi très précis, puisque grâce justement à Santé publique France, cette maladie est devenue maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que dès qu'il y a un cas de bilharziose en France, il remonte au niveau de nos institutions et il est tracé. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence très nette entre une bilharziose qui vient de Corse ou éventuellement qui viendrait de Montpellier, alors je ne vais pas faire peur aux Montpelliérains, mais ou alors de Perpignan, pourquoi pas, et ou une bilharziose dite d'importation, c'est-à-dire un voyageur ou un migrant qui serait venu du Burkina, de Mauritanie ou d'autres pays africains. Donc on est capable de faire bien la différence à l'heure actuelle.
Mathieu, on redonne le conseil pour terminer, pas d'urine dans les rivières et ça vaut partout, pas qu'en Corse d'ailleurs.
Et on peut aller voir la photo de ce ver qui est très très laid d'ailleurs, Axel, on peut le signaler au
passage. Oui, il a beaucoup de ventoux sur la tête.
Merci beaucoup à vous Jérôme Boissier pour ces informations et merci aux équipes de France Bleu Roussillon. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une espèce de poisson qui passe le test du miroir, le labre nettoyeur qui fait la taille d'un doigt, mais qui vient de devenir donc le tout premier poisson à réussir cette expérience classique imaginée pour tester la conscience de soi. 10 individus ont été placés dans un aquarium dont l'une des parois était un miroir. Une fois habitués donc au reflet, une tache rouge a été ajoutée sur la tête de ces poissons. Les chercheurs ont alors remarqué qu'ils passaient plus de temps à s'observer dans le miroir que certains. Ils ont également essayé de se frotter la tache contre les parois, même si l'interprétation de ce genre de test est toujours compliquée, les chercheurs japonais pensent que ces poissons tropicaux ont conscience que ce reflet était eux-mêmes. Une nouvelle méthode d'impression grâce aux ondes sonores mise au point par des chercheurs de l'université d'Harvard. Cette technique consiste à maîtriser le goutte à goutte de différents liquides à l'aide des forces acoustiques. La tête d'impression, un simple tube rempli de fluide, est soumis à différents sons, ce qui modifie la vitesse et la taille des gouttes qui s'en détachent. Cette innovation devrait permettre d'imprimer une gamme tout à fait nouvelle de matériaux tels que de la nourriture et des produits pharmaceutiques ou cosmétiques avec une précision soi-disant encore inégalée. Et puis pour la première fois en 50 ans, un apprenti astronaute démissionne de la NASA. Rob Cullin était en formation depuis 2 ans au Johnson Space Center à Houston. Il avait réussi à entrer dans le programme après 3 essais échoués. Il s'était extirpé d'une sélection drastique face à 18 000 autres candidats. Cette démission, pour raison personnelle selon la NASA, est effective aujourd'hui même. Allez, le club de la tête au carré, c'est dans un instant.
Feel the vibration waving through me. Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How I modulate now? Can you feel the vibration waving through me? Thank you.
Mutate, c'était Jeanne Haddad à l'instant.
Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des actes.
La tête au carré, le club.
Voilà, trois sujets au sommaire de notre club cet après-midi, comme tous les vendredis, pour parler aujourd'hui OVNI, une exposition au Havre née de l'écume et des rêves, c'est son titre. Et puis enfin, une enquête sur l'histoire des crétins des Alpes, d'où la voix du capitaine Haddock à l'instant. Et pour tous ces sujets, vous nous rejoignez bien sûr avec vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Antoine Debecq, on va commencer avec vous. Vous êtes historien, écrivain, professeur à l'école normale supérieure. Je peux ajouter également marcheur, car vous aimez particulièrement marcher sur les sommets. Et donc, vous publiez Histoire des crétins des Alpes aux éditions Vuibert. Alors ça, c'est un ouvrage passionnant parce que c'est à la fois une grande saga sociale sanitaire, hein, puisqu'elle concerne donc cette maladie que vous allez nous décrire, le crétinisme alpin, un phénomène, on le disait tout à l'heure, assez méconnu et qui pourtant a marqué des générations de personnes. Je pense que dans les Alpes, tout le monde connaît cette maladie, même les jeunes générations, non ?
Oui, disons que dans les jeunes générations, je pense que pas mal ont des grands-parents ou des ancêtres qui ont soit été malades, soit été entourés de malades. On estime que au milieu du 19e siècle, dans les Alpes françaises, il y a à peu près 20 000 crétins. Donc c'est à la fois évidemment une très petite minorité, mais c'est quelque chose qui c'est une maladie qui concerne quand même plusieurs milliers de personnes pendant une génération. Ouais. Donc voilà, le crétinisme a été vraiment détecté à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, et a été éradiqué seulement au début du 20e siècle.
C'est ça.
Donc on peut estimer qu'il y a eu entre 50 et 60 000 crétins pendant près d'un siècle.
Des générations de crétins qui d'ailleurs, cette histoire, cette affaire de santé a stigmatisé aussi beaucoup les Alpes finalement quand même.
Disons que c'est vrai que c'était surprenant, les Alpes étaient connues par beaucoup de récits de voyage. Il y a une grande mode du voyage dans l'Alpe et du récit de ce voyage qui commence au milieu du 18e siècle et parcourt tout le 19e siècle. Et à chaque fois, au milieu de ces descriptions de montagnes sublimes, de ces gens forts et libres, le montagnard libre, il y a une tâche, un monstre qui est le crétin. Chaque village aurait ses crétins et qui attendent à l'entrée du village, posés sur une pierre, incapables de parler, salivant, avec ce portrait qui s'élabore du goitreux, c'est le goitre évidemment qui est la première caractéristique du crétin, et puis aussi un arrêt de la croissance. Ce sont des êtres tout petits qui ont l'air dégénérés aussi bien physiquement que mentalement. Donc il y a comme une sorte d'incongruité dans le paysage. Ce paysage magnifique, et tout d'un coup on tombe sur le crétin. Et donc ça, c'est ces descriptions sont innombrables dans les récits, que ce soit des récits qui peuvent être très communs, ou alors des récits de grands écrivains comme Victor Hugo, Goethe, Alexandre Dumas, Flaubert. L'Alpe est une sorte de passage obligé du grand écrivain, la description de cette montagne.
Et sur sa route.
Sur sa route, il tombe sur le crétin. Le plus drôle étant peut-être Victor Hugo, qui fait une description magnifique, extrêmement lyrique comme ça de la montagne du Rigi en Suisse, et qui tout d'un coup voit dans un coin un crétin, et il est à la fois choqué par cette présence monstrueuse, et en même temps il est presque encore plus choqué parce que ce petit être là ne fait pas du tout attention à lui. C'est peut-être la seule personne qui fait pas attention au grand écrivain Victor Hugo, qui est là, qui attend que tout le monde l'acclame. Il y a un petit bonhomme là difforme qui est dans son coin, qui est en train de sucer un morceau de pain, et il est presque choqué en quelque sorte par cela.
Ça, c'est le rôle du crétin d'ailleurs encore aujourd'hui finalement, c'est de se moquer un peu des grandes instances finalement.
C'est comme ça en tout cas que le crétin est beaucoup réapparu. Alors il y a eu donc toute une pathologie qui a été étudiée par des enquêtes très très sérieuses tout au long du 19e siècle, mais au moment où le crétinisme va être éradiqué, donc dans les années 1920, quand on découvre la
par cause, des moyens simples, c'est ça qui est incroyable.
On découvre que la cause principale, et presque pas unique, mais en tout cas qui domine toutes les autres, c'est un problème de la thyroïde. Hein. C'est une carence en iode,
tout simplement,
qui dérègle la thyroïde. Alors, ce sont des études qui avaient été faites. On avait compris que, notamment, le grand anatomiste Virchow avait mis en avant ce dérèglement de la thyroïde. Mais voilà, toutes les enquêtes, comme c'était vraiment une cause nationale dans plusieurs pays alpins. Toutes les enquêtes avaient multiplié les étiologies possibles. Hein. Ouais. Et donc, ça a un peu noyé le poisson. On pensait
que c'était... Ce qui est incroyable, parce que finalement, on a compris la cause de la maladie en cours de route, et le traitement, lui, est arrivé plus tard. Ce qui a condamné finalement des milliers de personnes.
Hein. Voilà, les premiers savants qui pensent que la carence en iode a à voir avec le crétinisme, c'est au début du 19e siècle. Ouais. Et il faut un siècle pour passer à cette simple mesure très banale et en même temps qui éradique le crétinisme en quelques années, hein, c'est d'ajouter un petit peu de sel, d'iode, dans le sel.
Et on voit le goitre aussi diminuer quasiment instantanément.
Ah bah oui, c'est quelque chose qui... Mais voilà, pendant des années, on a pensé que ça pouvait être le climat, que ça pouvait être la consanguinité, que ça pouvait être aussi le côté reculé des Alpes, l'hygiène déplorable de ce qui
Donc il
pouvait...
y a une errance du diagnostic terrible, ce qui fait que des milliers de personnes sont restées dans cette pathologie alors qu'elles auraient pu être guéries beaucoup plus rapidement.
Absolument. Donc il y a une sorte de scandale un peu silencieux, si on veut, à ce propos. Mais en même temps, c'est quelque chose qui montre aussi comment fonctionne la recherche médicale à un moment. On examine de façon...
Et on tâtonne.
En examinant toutes les causes possibles.
Xavier Passot, une question pour vous.
Oui, et le mot de crétin qu'on utilise aujourd'hui, il est antérieur à cette maladie du crétinisme ou c'est une dérive de ce nom-là?
Alors le mot crétin a été utilisé pour désigner ce crétinisme alpin. Hein. C'est un mot qu'on va retrouver dans toutes les langues, en allemand, enfin toutes les langues comme ça qui ont à voir avec les Alpes. Hein. C'est-à-dire ces terres reculées, ces terres qui sont loin de la mer et qui subissent une érosion un petit peu particulière. Donc on le retrouve en allemand, en italien. On le retrouve aussi dans les Pyrénées. On parle du cagot, là, c'est le cagot des Pyrénées. Donc il y a comme ça des dérivés du mot crétin qui désigne cette maladie, cette maladie. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que comme on le disait tout à l'heure, le crétinisme, il est éradiqué à un moment, mais il reste dans l'imaginaire. C'est-à-dire que voilà, le capitaine Haddock, d'autres, il y a pas mal d'artistes finalement qui
s'en nourrissent,
et puis qui ont fini aussi par revendiquer ce personnage du crétin, de l'arriéré, qui signifie aussi quelque chose presque idéologiquement, politiquement. C'est-à-dire que c'est l'alpin qui refuse la modernité. Hein, c'est l'alpin qui reste dans cette inertie. C'est par exemple très vite, dès le milieu du 19e siècle, quand l'équipement touristique des Alpes se développe, un certain nombre d'auteurs, comme Rodolphe Töpffer par exemple, qui est un grand défenseur de l'Alpe traditionnelle, vont utiliser le crétin comme un personnage qui s'opposerait, en quelque sorte, résisterait à ce développement du tourisme, à cette modernisation de la société. Et donc aujourd'hui, on trouve un certain nombre de personnes, d'artistes, qui revendiquent d'une certaine manière ce que moi j'appelle dans cet essai une forme de fierté crétine, c'est-à-dire de refus du développement touristique tel qu'il a été celui des Alpes françaises, surtout dans les années 60, c'est-à-dire cette sorte de massacre de l'Alpe. Hein. Ouais. Donc voilà, le crétin d'une certaine manière serait celui qui... en quelque sorte, dirait ces quatre vérités tout en étant silencieux, hein, tout en étant disparu, mais par l'imaginaire, il dirait ces vérités à ce développement de l'Alpe.
Alors, on va écouter l'extrait d'un film de 2008 qui s'appelle La Terre de la Folie, de Luc Moulet, et c'est lui justement qu'on entend dans cet extrait.
Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. Je crois que j'ai été déboussolé par la paranoïa de mon père. Mon père avait été très perturbé par les comportements des membres de sa famille, originaires des Alpes du Sud. Peu à peu, je me suis aperçu que ces problèmes ne se limitaient pas à ma famille, mais qu'on les retrouvait dans les vallées voisines des Alpes du Sud. La malnutrition crée souvent un goitre liée à une atrophie de la thyroïde suite à un manque d'iode dans ces montagnes éloignées de la mer.
Voilà, Antoine Debecq, La Terre de la Folie. Beaucoup, justement, d'œuvres cinématographiques font référence aux crétins. Ou aux crétines, d'ailleurs. Oui, hein, parce que crétines, vous commencez le livre comme ça, avec les crétines de la Salpêtrière.
C'est vrai qu'il y a eu à la Salpêtrière un département des idiotes, ouais. Hein, qui a été très important sous la direction d'un grand médecin, hein, qui s'appelle le docteur Falray, qui l'a créé dans les années 1830. Et il a voulu absolument faire venir des crétines dans son département des idiotes. Donc il a été les faire chercher dans les Alpes, les ramener, et ensuite il les a...
Mais il fallait les occuper, donc il a monté une chorale de crétines.
Voilà, le crétin, c'est un être parfait pour tous les pédagogues. C'est-à-dire que voilà, on pense qu'on va pouvoir les éduquer, qu'on va pouvoir leur apprendre la grande culture, et donc voilà, la marotte en quelque sorte du docteur Falray, c'était la chorale. Donc il faisait chanter les idiotes, et les crétines avaient une part particulière dans cette chorale de la Salpêtrière.
Ouais. Antoine Debecq, vous vous êtes intéressé à ce sujet parce que vous vous êtes toujours considéré vous-même comme un peu crétin, un idiot sur les bords. C'est vous qui le dites.
Oui, hein. Un peu comme Luc Moulet. J'ai beaucoup d'admiration pour ce cinéaste Luc Moulet, et c'est vrai que je pense qu'on est tous un peu à la fois fascinés, et puis on éprouve cette solidarité pour les plus faibles, les plus démunis. Et pour moi, elle est passée, cette solidarité, par une forme d'idiotie, de crétinisme que je voyais moi-même se développer autour de mon corps un peu malhabile, de mon rapport à la technologie qui est toujours un peu catastrophique. Donc il y a toute une série de choses qui font que je me sens assez proche, tout en étant évidemment pas un crétin, mais quand même sur les bords.
Nous avons tous un crétin en nous. Voilà. Certainement, Antoine Debecq. Et vous parlez de cette science des Alpes, de l'Alpe d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que ça a donné naissance vraiment à des connaissances très très importantes.
C'est quand même aussi ça l'important,
hein.
C'est-à-dire que le milieu médical français, mais pas seulement, hein, aussi en Autriche par exemple, c'est énormément mobilisé autour de cette question.
En Suisse,
il y a eu des grandes enquêtes, et ça c'est une grande enquête dans les années 1860-70 autour du docteur Jules Baillarger. Ce sont des sommités de l'époque, hein, et qui ont permis de connaître de façon absolument précise le nombre de crétins qu'il y avait dans chaque département français, et d'avancer comme ça. Il y avait quelque chose qui était insupportable, notamment en 1860, quand Napoléon III hérite de la Savoie. Hein, la Savoie, il récupère la Savoie qui lui est donnée par le royaume de Piémont, et il ne peut pas supporter d'avoir en héritage, d'une certaine manière, aussi des crétins. Et donc, il lance ces grandes enquêtes, hein, qui sont... À la fois, ce sont des enquêtes qui vont, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu être la cause des tâtonnements, des errances, en quelque sorte, de la science. Et en même temps, c'est aussi des enquêtes qui font la fierté de la science française. Il faut savoir qu'il y a une centaine de thèses de médecine tout au long du 19e siècle consacrées au crétinisme.
Incroyable. La maladie est totalement éradiquée.
Alors, elle est éradiquée en Europe, mais elle existe toujours dans les pays du tiers-monde, en Afrique. Il y a toujours, je crois qu'il y a près de 2 millions de crétins, de crétinistes, de goitreux aujourd'hui.
Et on ne la soigne pas tout simplement avec de l'iode ?
Eh bien, si, mais je pense que c'est aussi très compliqué d'atteindre des populations qui sont très isolées.
Incroyable, parce que les pastilles iode, enfin, c'est quand même très, très simple.
Mais c'est peut-être la simplicité du remède qui a été, d'une certaine manière, qui a dérouté.
Ouais. Merci beaucoup Antoine Debecq, c'est passionnant, c'est une enquête que vous avez menée donc dans ces régions que vous aimez tant, autour de l'histoire des crétins des Alpes, et c'est la librairie Vuber qui publie votre ouvrage. Vous restez avec nous dans un instant, nous partons au Havre pour une exposition, on prend le large.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres, je suis piscine de part, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud. Semblant que ses clients l'appellent.
Capucine, c'était la voix de Camille.
La tête au carré.
On est à Londres.
C'est de l'autre côté. Ici, c'est Le Havre, en Normandie.
Le club sur France Inter.
Et donc nous aussi, nous allons à la mer. Sophie Bécherel, vous serez avec nous tous les vendredis dans le club maintenant pour attirer notre attention sur des expos, des spectacles, des livres ou des films à caractère scientifique, bien sûr. Et puis vous terminerez avec un agenda sur des rendez-vous à ne pas manquer pendant le week-end. Et aujourd'hui, votre premier invité, justement, Denis-Michel Boël.
Oui, conservateur général du patrimoine et co-commissaire d'une exposition qui a lieu en ce moment au MUMA du Havre, au musée d'art moderne André Malraux, co-commissaire avec Annette Audiquet et Marc Donadieu, né de l'écume et des rêves. Dans ce très beau bâtiment qui est ce musée qui ouvre sur la mer et le port, l'exposition présente 180 œuvres, toutes inspirées par le monde marin, la mer, les océans, les abysses, les créatures réelles ou imaginaires qui peuplent donc ces fonds marins et qui ont inspiré les artistes depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et si on en parle dans la tête au carré, en fait, c'est parce que le 19e siècle, et vous le savez, une période qui a été marquée par des avancées scientifiques majeures et notamment une discipline nouvelle, l'océanographie. Et donc, Denis-Michel Boël, les artistes ne sont pas passés à côté de cette nouveauté.
Non, bien au contraire, certains précèdent les découvertes scientifiques proprement dites, mais beaucoup se font l'écho de cette invention, petit à petit, du monde sous-marin, que ce soit le vivant sous-marin, la géographie sous-marine, la compréhension des phénomènes que sont les marées, on le savait quand même depuis fort longtemps, mais les courants, non. Les courants, on les étudie, on les mesure à partir des années 1860 seulement, du 1850-60.
Vous avez réuni une palette extrêmement variée. Ça, c'est un choix parce qu'il y a des dessins, des peintures, de la céramique, de la sculpture, des films. Enfin, il y a énormément de choses. Ça a été un choix?
Alors, c'est un choix. On s'est fait vraiment plaisir en réunissant des œuvres, on va dire, qui démarrent dans les années 1860 et qui vont jusqu'à nos jours. On a évidemment, on peut pas parler aujourd'hui de l'océan sans avoir un regard contemporain sur ce qu'il devient. C'est assez évident. Il y a un certain nombre d'artistes, en particulier ceux qui embarquent à bord de la goélette Tara, on en a pris trois, traduisent certaines des angoisses qu'on peut ressentir devant l'évolution du milieu marin. Mais dès les années 1860, on a des regards très très pointus sur la vie sous-marine, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des plantes. Et ces regards vont ensuite donner tout un tas d'interprétations, alors soit symboliques, alors, le mouvement symboliste en peinture, soit décoratives. Autour de 1900, on va dire l'art nouveau pour aller vite, que ça soit dans le domaine du verre, de la céramique.
Il y a une main de Galet d'ailleurs avec des coquillages,
Une œuvre de la dernière œuvre de Galet qui est une main.
C'est
qui
la dernière œuvre de Galet.
À peu près. Ah, c'est en tout cas considéré par les spécialistes de Galet comme son testament assez étrange. Une main ornée de coquillages qui sort de l'eau. Il y en a trois exemplaires, dont un au musée d'Orsay et un qui est présenté dans cette exposition.
Et à partir du moment où les scientifiques donnent à voir les fonds sous-marins et la vie biologique qu'il y a, qu'est-ce que ça change pour le regard des artistes?
Alors, ça ne change pas immédiatement, ce n'est pas mécanique. Au contraire, les artistes interprètent, ils savent qu'il y a une vie sous-marine. Évidemment, on a extrait des animaux, on découvre petit à petit que c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croyait. Et souvent, ces découvertes sont accidentelles. C'est en relevant un câble de télégraphie sous-marine qui allait très profond dans des failles océaniques que l'on se dit, mais alors c'est pas possible, il y a des animaux qui sont accrochés là. On pensait qu'il n'y avait pas de vie en dessous de quelques centaines de mètres, par exemple. Et il y a des tas de choses qui se modifient comme ça par approche, par hasard. La science avance aussi souvent de cette façon. Et on a des artistes qui vont dans l'interprétation. Pour donner un exemple, c'est aussi l'époque du darwinisme et des grands débats autour de Darwin. Et on sait que Darwin, évidemment, pose la question de l'origine, du rôle de la mer, enfin, dans l'évolution et dans l'origine de la vie. Et quelqu'un comme Odilon Redon va publier une série de lithographies qui s'appelle « Les origines ». Et Odilon Redon, ce sont des créatures totalement imaginaires, mais dont il peut laisser supposer qu'elles sont quelque part des étapes dans
l'évolution
de la vie.
Il y a de très belles choses, et il y a cette porcelaine, pardon Sophie, qu'on voit ici dans le catalogue de l'exposition. C'est une jeune artiste, Elsa Guillaume, qui a travaillé justement sur Tara. Hein, et ça fait partie des œuvres les plus récentes
Absolument,
que vous présentez.
Absolument, Elsa Guillaume, c'est une jeune artiste sortie des Beaux-Arts, de l'École des Beaux-Arts de Paris, il y a 5 ans seulement, qui travaille la céramique, et qui, dans ce matériau à la fois fragile, léger, transpose son regard sur la mer et sous la mer, puisqu'elle plonge. Elle adore plonger. Elle a plongé dans différentes mers, que ce soit en Grèce, au Japon, etc. Elle a embarqué effectivement sur Tara et elle nourrit ses rêves de cette expérience de la plongée sous-marine. Et elle nous produit des choses tout à fait étonnante, merveilleuse.
C'est assez fascinant de voir la progression dans l'exposition. Effectivement, les artistes du XXIe siècle qui témoignent de l'action de l'homme sur cette mer et de l'action dévastatrice. C'est le cas aussi de Nicolas Flock qui montre ses fonds sous-marins des poubelles, parfois.
Oui, Nicolas Flock, un artiste breton qui photographie et présente sous forme de très grands tirages des vues de laminaires à Ouessant, mais aussi des vues de coraux qui sont tout à fait blanchis. Alors, il travaille aussi beaucoup avec des scientifiques, Nicolas Flock, par exemple. Il entreprend une sorte de cartographie en ce moment des côtes de Bretagne par milieu, donc à l'aide d'un appareil photographique, d'une sorte de chambre photographique, et pour montrer à quel point ces milieux évoluent et se transforment. Et évidemment, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais deviennent des poubelles parfois, enfin, ou deviennent des milieux morts.
Alors avant cela, il y a eu un artiste exceptionnel, le fils du mathématicien Paul Painlevé, Jean Painlevé, avec ses films qui sont d'une poésie incroyable.
Les hippocampes. Fait...
Voilà, lui, il a l'air fasciné au début du XXe siècle par les bestioles, effectivement, qu'on découvre, qui sont un peu bizarres, hein, notamment les hippocampes, et Bernard l'ermite. Et alors, il nous fait des objets poétiques, parce que finalement, il pose sa caméra devant l'aquarium ou sous la mer.
Absolument. Au départ, c'est un regard scientifique, hein, c'est un observateur de ces animaux. Il est fasciné par certains aspects, la reproduction chez l'hippocampe par exemple, ou la pieuvre évidemment. Et il pose sa caméra de façon très rapprochée, de façon à observer. Et on a ces images qui aujourd'hui nous sautent aux yeux sur un écran et qui sont fascinantes. Et cette fascination, Painlevé l'a transmise en particulier aux surréalistes qui ont été très friands de ces images.
Il a même été censuré aux États-Unis parce que les scènes de copulation des hippocampes ont été jugées absolument contraires aux bonnes mœurs.
Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quelques œuvres d'Ernest Haeckel, un biologiste qui a contribué en Allemagne à faire connaître les thèses de Darwin et qui a fait des planches du plancton sous-marin qui sont exceptionnelles et qui ont été reproduites en verre soufflé. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait.
Non, alors on n'a pas pu les obtenir, malheureusement, oui. Donc il s'est intéressé à la géométrie des formes de la nature sous-marine et aux symétries, etc. Et dans les muséums d'histoire naturelle autour de 1900, on a fait des transpositions en verre de ses dessins.
Allez, ça s'appelle Né de l'écume et des rêves. Il ne reste plus que quelques jours. C'est jusqu'au 9 septembre au MUMA, voilà, du Havre. Merci beaucoup à vous, Denis-Michel Boël, d'être venu nous en parler. Très, très vite, Sophie, deux rendez-vous.
Alors, si vous êtes toujours en Normandie ce week-end, allez au Muséum National d'Histoire Naturelle de Rouen, où il y a l'exposition Wild Wild Photographer of the Year, des expositions de photographies animalières qui ont été choisies parmi 50 000 clichés. C'est un concours annuel. Et donc, le Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen les accueille pour la 11e année. C'est jusqu'au 17 septembre. Un autre muséum d'histoire naturelle, celui de Bayonne, vous propose de découvrir tout sur l'ours. C'est gratuit, on peut y aller. Elle n'a jamais croisé l'homme. C'est Trix, la femelle tyrannosaure de 67 millions d'années qui joue les prolongations au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous avez jusqu'au 4 novembre. À Bordeaux, dernier week-end pour profiter de l'exposition Luminopolis à Cap Science, le musée des sciences de Bordeaux. C'est un peu un escape game autour du thème de la lumière. Enfin, à Rennes, l'exposition Nuit qu'on avait vue ici à Paris. Chauves-souris, papillons, chouette, le rapport de l'homme au sommeil, à la nuit, etc. Tout ça, c'est à Rennes.
Merci beaucoup, Sophie Bécherel. Dans un instant, on parle OVNI.
Honte à toi qui la première m'a appris la trahison et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. Ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. Qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi, j'étais encore aussi simple qu'un enfant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense put sans peine être abusé, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira.
La nuit d'octobre 59, c'était Serge Gainsbourg.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Xavier Passeau, j'ai vu un ovni, perception et réalité. C'est aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes ingénieur au CNES, à la retraite aujourd'hui, l'agence spatiale française. Et puis, vous avez été responsable du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, hein, pendant 5 ans.
Voilà.
Est-ce que vous-même avez vu des ovnis dans votre vie?
Eh bien non. Voilà. Eh bien non.
Donc ce titre est mensonger.
Le titre n'est pas mensonger. Le titre, c'est le début d'une histoire.
C'est vrai.
C'est le début. C'est comme ça que ça commence.
Ouais. C'est ce qu'on vous dit quand voilà. On vient témoigner.
Voilà, c'est souvent comme ça que commence un témoignage, comme ça qu'on rentre en matière, quand vous discutez avec des amis. Ah, j'ai vu un ovni. D'où le titre.
Ouais.
Mais le sous-titre, Perception et réalité, est effectivement plus révélateur du contenu de l'ouvrage.
Absolument. Et il en existe beaucoup encore des personnes qui voient des objets volants.
Le GEPAN en reçoit presque 2 par jour, hein, en moyenne.
Quand même,
hein. Donc
ouais.
C'est énorme.
Hein. Ouais.
C'est énorme. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que beaucoup de ces rapports, rapportent des événements certes insolites, mais qui sont relativement connus, qui sont les lanternes Thaï, la planète Vénus, des avions, la station spatiale internationale, les chutes de météorites.
Des reflets du luminaire de cuisine dans la vitre aussi.
Des reflets du luminaire de cuisine dans la vitre.
C'est les perceptions, c'est amusant.
Ça,
quand même.
C'est les photomystères. Ça, c'est génial.
C'est
très marrant. Et si vous regardez un peu attentivement les photos que vous avez prises,
oui, on a tous des ovnis dans nos clichés.
Quand on regarde dans les clichés, on voit souvent des phénomènes assez étonnants. Enfin, des phénomènes, des effets qui sont souvent que des reflets optiques.
C'est ça. Un frelon en vol très près de l'objectif avec un flou de bouger, c'est un ovni aussi sur une photo.
C'est une très belle image. On dirait vraiment une soucoupe dorée, sûrement de première classe.
Ouais. Est-ce que ça a été facile de créer justement un groupe d'études comme le GEPAN au sein du CNES dans un pays comme le nôtre, très rationnel et matérialiste et...
Oui, l'histoire de la création du GEPAN est assez étonnante parce qu'effectivement c'est une exception mondiale, je dirais. Dans les autres pays, c'était les militaires qui s'intéressaient à ce sujet-là parce qu'ils craignaient que ce soit surtout des envahisseurs, soit russes, soit américains, etc. Donc, au bout d'un moment, ils se sont aperçus que ce n'était pas ça, donc ils s'en sont beaucoup moins intéressés. C'est-à-dire que la démarche au CNES était tout autre. C'était vraiment une vraie démarche scientifique d'essayer de comprendre ce phénomène-là. Et donc,
de mettre la science au service de ces questions. quand même.
Voilà, absolument. Voilà. Et donc les créateurs du GEPAN qui avaient discuté avec les premiers, ce qu'on appelle ufologues américains, ceux qui s'intéressent aux UFO, aux Unidentified Flying Objects, les ovnis, ont suggéré de créer ce groupe scientifique au CNES, et ça a été relativement bien accueilli par la gendarmerie nationale, par l'armée de l'air, etc., parce qu'ils se sont dit, tiens, ils vont gérer
les dossiers.
Si l'Institut veut bien gérer ce sujet bizarre,
on va s'en débarrasser.
Voilà. Ouais. Donc voilà comment je vois.
Alors, sauf qu'il y a une méthodologie, évidemment, très sérieuse autour de tout ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on vient vous voir pour un témoignage, absolument, il faut classer les dossiers.
Donc il y a une méthodologie qui est de plus en plus affûtée, je dirais, avec des outils de plus en plus avancés. Bon, l'informatique nous apporte beaucoup d'outils intéressants. La sociologie aussi, la psychologie, et la psychologie de la perception surtout.
Ouais, ah oui,
parce
ça, c'est
que tout commence par ça, en fait. La clé de ces affaires d'OVNI, c'est que les estimations de distance et de vitesse que peuvent faire les témoins sont a priori fausses. Ça, c'est quelque chose que les témoins ont du mal à comprendre. Que quand ils voient passer un point lumineux dans le ciel, eux, ils ont mis dessus une distance et une vitesse qui n'a aucune raison d'être juste, quelles que soient les capacités du témoin. Voilà. Et en fait, tout vient de là, pratiquement. Toutes les méprises viennent de là. C'est que l'estimation de distance est
donc mauvaise. Ça, on l'explique aux gens. Hein, ça fait partie des premiers propos qui sont tenus.
Ils ne l'entendent pas tous, forcément. Bien sûr. Voilà.
Sophie Bécherel.
Il y a quand même des cas pas non négligeables qui ne trouvent pas d'explication scientifique.
Bien sûr,
alors, qu'est-ce que vous en faites?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a au GEPAN, on en comptait 20%, on est retombé à quelques pourcents. Enfin, non, un peu moins, 7-9% par là. Enfin, peu importe le pourcentage, à la limite, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de regarder ce que sont ces cas inexpliqués. Et ces cas inexpliqués sont toujours des cas avec relativement peu d'informations sûres. C'est-à-dire, on a toujours un témoignage humain qui a la valeur du témoignage humain. Et on sait que, bon, elle est discutable sur le plan, ne serait-ce que de ses estimations de taille et de vitesse, et d'autres sujets aussi, hein, la mémoire, tout ça, enfin bon. Et en plus du témoignage humain, souvent, il n'y a que ça. Les journalistes me demandent souvent des photos associées à des cas inexpliqués. Et bien, au GEPAN, il n'y en a pas. Voilà, donc déjà, vous voyez, tous les cas inexpliqués, il n'y a jamais de photos. Bon, ça, c'est quand même ennuyeux. et donc, pour le GEPAN, ce qui serait un bon cas inexpliqué, ce serait un cas avec deux témoins indépendants. Voilà. Eh bien, il n'y en a pas.
Ouais.
Donc voilà, donc il y a beaucoup de cas inexpliqués, mais une matière un peu faible sur le plan scientifique. Quoi. C'est pour ça que les scientifiques durs, je dirais, rechignent un peu à s'intéresser à ce sujet-là, parce que la matière scientifique est un peu faible.
Alors Xavier Passot, un exemple qui a trouvé réponse, solution, mais quelques temps plus tard, c'était en 1979, l'OVNI de Cergy Pontoise avec trois jeunes Français, dont l'un avait été enlevé par des extraterrestres. Écoutons cet extrait d'Affaires Sensibles.
Jean-Pierre Prévost, 26 ans. Salomon Ndiaye, 25 ans. Franck Fontaine, 19 ans. C'était à Cergy Pontoise, le 26 novembre 1979. Il était 4h du matin et les trois amis s'apprêtaient à partir pour le marché de Gisors.
On a aperçu comme une boule qui descendait du ciel. Une traînée lumineuse, on appelait ça.
Vous avez décidé de...
J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place, quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a quelque chose, quoi que ça, je peux être utile. Alors l'objet, il est parti de sur la droite, là-bas, et est descendu en oblique, comme ça.
Ça avait quelle forme?
D'une traînée lumineuse.
À peu près à quelle distance vous pensez que c'était?
Les autorités ont estimé 300 à 400 mètres.
À quoi ressemblait l'objet que vous avez aperçu dans le ciel?
C'est-à-dire que, de temps, c'était blanc, opaque, et puis, ça faisait comme un cigare qui descendait tout doucement en direction du champ de chou. J'ai appelé Jean-Pierre en lui disant, il se passe des trucs bizarres.
Voilà, Xavier Passot, cette histoire a défrayé la chronique en 1979. Hein. Il faut imaginer ce que c'était à l'époque.
Oui.
Hein.
Et je me suis replongé dans ce cas lorsque j'étais au GEPAN, et j'ai trouvé des courriers du directeur du GEPAN actuel, M. Esterle. Il a été traumatisé par cette affaire, parce que lui, il était venu pour faire de la science au GEPAN, et il s'est trouvé pris au milieu d'une espèce d'imbroglio, d'escroc, de mise en scène dans lequel lui-même était le jouet. Et ça a été, ça l'a beaucoup déçu, je dirais.
Alors que c'était un canular. Hein.
C'était un canular.
Parce que le jeune s'était caché pendant une semaine.
C'était qu'un canular. Ça a été vraiment monté comme ça. Bien monté. Avec dans l'idée, ceux qui ont monté le canular espéraient faire une grosse production audiovisuelle derrière qui vendait très cher et vendait des livres, etc.
Quel crétin, pourrait dire Antoine Debecq, pour juger ce jeune homme.
C'est triste affaire qui a bien sûr terni tout le monde de l'ufologie.
Il y a eu un rapport aussi Cometa en 1990. On se souvient aussi de ce nom de rapport, Cometa sous Lionel Jospin.
Absolument. Oui, ça c'est un rapport Cometa
qui a fait sensation et pour quelle raison
fait sensation. Alors, ce qui est extraordinaire dans le rapport Cometa, c'est le curriculum vitae de ses auteurs. Ses auteurs sont des anciens généraux, des ingénieurs très haut niveau, etc. Qui, dans leur conclusion, écrivent clairement que, pour eux, l'origine la plus probable de ces ovnis, ce sont des interventions extraterrestres. Conclusion un peu hâtive.
Publiée dans VSD.
Pas du tout justifiée. Et c'est vrai que je les égratigne un petit peu dans mon livre.
Ils portaient bien son nom.
Simplement en disant qu'ils ont un petit peu probablement oublié la rigueur scientifique de leurs jeunes années. Pour écrire ce document qui en soi est un document, je dirais, qui n'est pas mauvais, mais la conclusion est pour le moins hâtive.
Ouais, conclusion absolument pas valable scientifiquement et une vraie supercherie surtout. Hein.
Supercherie, j'irai pas jusque là quand même, mais en tout cas, scientifiquement, il y a pas de justification, ce n'est qu'une conjecture.
Voilà. Merci beaucoup Xavier Passot. Pour tous ceux qui voient, en tout cas des ovnis, on peut toujours aller sur le site du GEPAN, hein, parce que c'est là qu'on peut recueillir justement les témoignages, voilà. Et puis étudier avec les scientifiques toutes les indications données par les témoins. Et puis ce livre qui sort aux éditions du Cherche Midi, qui s'appelle « J'ai vu un ovni », préface de Pierre Lagrange. Merci beaucoup à tous. Toutes les infos, l'agenda de Sophie Bécherel sur le site de La Tête au Carré. On va mettre ça dans quelques minutes. Passez un excellent week-end. Merci à Elisabeth Collet.